Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. La Côte d'Azur sera confinée durant les deux prochains week-ends. Le préfet annonce aussi la fermeture des commerces et galeries marchandes de plus de 5000 mètres carrés. Dans les écoles de la zone A qui font leur rentrée aujourd'hui, début d'une campagne de tests salivaires. À Paris, début du procès de l'infirmière qui avait lancé des cailloux sur la police lors d'une manifestation en juin dernier et qui avait été violemment interpellée. De nouvelles sanctions contre la Russie, en débat aujourd'hui à Bruxelles. Et puis 5 nouveaux cas positifs au sein du 15 de France, dont le capitaine Charles Olivon, la liste des forfaits s'allonge. Invité d'Europe Midi, la productrice de cinéma Michèle Halberstadt qui publie « Né quelque part » chez Albin Michel, étonnante enquête autobiographique sur les Halberstadt qui l'amène à Freud, en Pologne et même en Afrique du Sud.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nice et toute la bande littorale des Alpes-Maritimes, de Cannes à Menton, devront rester confinés les deux prochains week-ends, du vendredi soir au lundi matin. C'est la principale mesure annoncée à l'instant par le préfet des Alpes-Maritimes, Frédéric Michel.
Oui, effectivement, sans surprise, hein, les mesures détaillées à l'instant par le préfet des Alpes-Maritimes sont plus dures avec ce confinement décidé pour les deux prochains week-ends. Confinement du vendredi 18h au lundi 6h du matin sur toute l'aire urbaine du littoral, hein, de Menton à Théoule-sur-Mer, c'est là où est regroupé 90% de la population. Les habitants seront autorisés à faire des courses alimentaires, à sortir leurs animaux de compagnie ou faire du sport dans la limite d'une heure et dans un rayon de 5 km. Mais à 18h, il faudra être à la maison. Dès demain, entrent en vigueur des nouvelles règles applicables également au commerce. Fermeture des galeries marchandes de plus de 5000 m², des jauges plus strictes dans les grands magasins, généralisation du port du masque sur tout le territoire des Alpes-Maritimes et contrôle des personnes arrivant de l'étranger dans les gares, aéroports et sur la route où des tests PCR aléatoires seront organisés. Enfin, le préfet, se faisant l'écho des élus locaux, indique que la campagne de vaccination va s'accélérer. Il faut faire mieux et plus vite. 4500 doses de vaccins supplémentaires vont être livrées. L'heure n'est plus à la pédagogie, mais à la responsabilité. Les contrôles seront renforcés, martèle le préfet.
Merci Frédéric Michel en direct de Nice et de la préfecture. Premier confinement territorialisé dans l'Hexagone, donc depuis le début de la crise. Ces jours de rentrée dans les écoles de la zone A, les académies de Poitiers, Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Dijon, Besançon, Grenoble. Et c'est là que doit débuter aujourd'hui, cette semaine, en tout cas, une campagne de tests salivaires sur les enfants et sur la base du volontariat, Anne Le Gall.
Oui, ces tests sans écouvillon dans le nez démarrent dès aujourd'hui à Saint-Étienne notamment. Et le dispositif va se déployer dans les jours qui viennent dans les écoles primaires de la zone A sur la base du volontariat. Concrètement, après avoir donné leur nom, prénom, avec l'accord écrit des parents, les élèves devront cracher au moins 1 ml de salive dans un flacon en plastique. Cet échantillon sera ensuite récupéré par un laboratoire du secteur. Il sera analysé par méthode PCR et le résultat sera rendu en 24 heures. Les parents et les écoles en seront avertis très vite pour pouvoir organiser l'isolement à la maison, voire éventuellement les fermetures de classe. Et si le test est positif, un criblage sera aussi effectué pour rechercher le variant anglais ou sud-africain, par exemple. Ces dépistages sont pour l'instant réservés aux élèves les plus jeunes, en maternelle et en primaire. L'objectif, c'est d'en réaliser 50 à 80 000 par semaine avant d'élargir éventuellement le dispositif au collège et au lycée. Ces établissements avaient déjà des tests nasopharyngés à disposition, mais avec peu de succès jusqu'ici, puisqu'on ne compte que 20 à 30% de volontaires seulement parmi les élèves et les enseignants.
Merci Anne Le Gall. Rentrée des classes à Lyon sans viande dans les cantines scolaires. La mairie écologiste défend un choix lié aux contraintes sanitaires qui oblige à un menu unique. Le gouvernement et la droite locale dénoncent au contraire une décision idéologique. Réaction prudente ce matin du ministre Olivier Véran qui était en déplacement à Lyon.
Dans les familles notamment en précarité, la viande, le poisson peuvent coûter cher. Et que donc quand on met son enfant à l'école et à la cantine, eh bien c'est aussi une occasion pour l'enfant d'avoir des protéines d'origine animale qui sont importantes dans sa régime nutritionnel. À côté de ça, c'est le père de famille qui va vous répondre. Je fais des menus végétariens à mes propres enfants. Hier soir, c'était patricote épinard pour ne pas vous gâcher les choses. Donc, je suis absolument pas choqué et certainement pas scandalisé qu'on puisse proposer des repas sans viande ou sans poisson à l'école. La question, c'est dans quelle direction on le fait, quelle est la motivation sous-jacente. Encore une fois, l'équilibre alimentaire fait partie de l'équilibre de l'enfant. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas pour moi lieu à polémiquer.
Olivier Véran, ce matin à Lyon, les écoles rouvrent en Allemagne aujourd'hui après 2 mois de fermeture. elles devraient rouvrir le 8 mars en Angleterre, au Royaume-Uni. Boris Johnson présente cet après-midi devant les communes son plan de déconfinement. Pour les vaccins, des nouvelles de Sanofi. Le laboratoire français annonce le début aujourd'hui d'essais cliniques de phase 2 pour son vaccin reformulé après un premier échec en décembre. Le sérum n'avait pas été jugé assez efficace. Sanofi et son partenaire GSK espèrent rendre son vaccin disponible à la fin de l'année. Par ailleurs, Sanofi annonce qu'il va produire en France le vaccin de son concurrent américain Johnson & Johnson. La crise sanitaire nous rend plus sédentaires. Les ostéopathes constatent une hausse des maux liés au télétravail, au manque d'activité et de déplacement. Reportage d'Élise Dangean auprès d'un praticien en région parisienne.
Dans le cabinet de Loïc Le Glatin, ostéopathe depuis 35 ans, les patients se suivent et se ressemblent.
Bonjour monsieur Chevalier.
Bonjour.
En tout cas, ceux qui télétravaillent 5 jours sur 5, dans le cas de Christian, ingénieur informatique.
Alors, on en est où de cette épaule?
J'ai de plus en plus de douleurs, donc de l'omoplate jusqu'au coude, en passant par le poignet.
Pas d'étonnement chez l'ostéopathe, désormais habitué à ses consultations.
Est-ce qu'il y a un lien pour vous avec les nouvelles conditions de travail?
Ouais, je reste assis sur ma chaise presque de 9h à 18h avec la pause déjeuner et je suis pas forcément bien assis pour le coup.
Bon, on va aller regarder ça. Allongé. Ça ressemble à des motifs de consultation qui sont réguliers et récurrents en ce moment. On a remarqué quand même une augmentation de la fréquence.
Quelques manipulations sont donc nécessaires.
C'est une zone qui vous parle.
Ouais, c'est là.
Respirez fort.
Mais aussi quelques conseils.
Il faut vraiment s'obliger à bouger régulièrement, à lever les bras en l'air, à bouger la tête, tourner la tête, se lever de sa chaise.
45 minutes plus tard, le patient repart avec le sourire.
Détendu.
Avant de retourner en télétravail.
Élise Dangean pour le reportage. Levez la tête dans un instant la suite. Une infirmière en procès et des forfaits en série dans le 15 de France.
Patrick Cohen.
Son arrestation brutale après des jets de pierre sur les forces de l'ordre avait fait le tour des télés et des réseaux sociaux en juin dernier. Farida, l'infirmière interpellée lors d'une manifestation de soignants, comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour outrage et rébellion. Vous assistez au procès, Marion Dubreuil.
Farida, 51 ans, en blouson en cuir noir, cheveux mi-longs, fait face au commissaire divisionnaire en costume cravate qui a déposé plainte contre elle pour outrage et violence. Le 16 juin dernier, cette infirmière est soupçonnée d'avoir, vidéo à l'appui, fait un doigt d'honneur d'avoir insulté des policiers et d'avoir jeté des projectiles dans leur direction. C'était en marge d'une manifestation des soignants qui dénonçaient leurs conditions de travail en pleine crise du Covid. Plusieurs blouses blanches sont d'ailleurs dans la salle, ainsi qu'un élu France Insoumise venu soutenir la prévenue. Son avocat, maître Harry Halimi, veut faire de cette audience une tribune pour faire entendre le mal-être des soignants.
Aujourd'hui, on a 57% de soignants qui souffrent de syndrome post-traumatique, 41% de soignants qui souffrent de burn-out. Vous imaginez ce qui est en train d'être fait aux soignants et vous pouvez éventuellement maintenant comprendre pourquoi des soignants en arrivent à de telles extrémités.
L'audience a jusque-là largement été consacrée à des questions de procédure soulevées par la défense. L'infirmière, qui n'a jamais été condamnée par le passé, encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Marion Lubreuil au Palais de Justice de Paris. À Bruxelles, réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui devrait multiplier les sanctions au nom des droits de l'homme, contre la Birmanie, la Biélorussie, le Venezuela, mais le dossier le plus sensible est celui de la Russie après les condamnations à répétition de l'opposant Navalny. Isabelle Horry, à Bruxelles, l'Europe devrait à nouveau sévir sans illusion?
Oui, alors l'enjeu est taille quand même pour les Européens. Ils doivent riposter après la vraie humiliation infligée à leur envoyé à Moscou il y a 2 semaines. Les Russes avaient expulsé des diplomates européens au moment même de la visite de l'Espagnol Josep Borrell et il était rentré les mains vides sur le sujet des arrestations d'opposants comme Alexei Navalny. Alors la diplomatie en commun, c'est pas toujours le point fort des 27, mais là les ministres savent qu'ils doivent réagir ensemble. On s'attend donc, sauf coup de théâtre, à ce qu'ils donnent leur feu vert à des sanctions qui cibleront des Russes impliqués dans les arrestations. Les proches de Navalny réclament plus, frapper au portefeuille, cibler les oligarques, disent-ils. Des demandes soutenues par les Pays-Baltes ou la Pologne. Mais voilà, Berlin a besoin du gaz russe et Paris veut absolument garder des canaux de communication avec Moscou sur la Syrie, la Libye ou l'Iran. Donc malgré les pressions américaines et la présence du nouveau secrétaire d'État, Anthony Blinken, cet après-midi, par vidéoconférence, peu de chance que les Européens aillent au-delà de mesures avant tout symboliques.
Isabelle Horry à Bruxelles, en direct pour Europe 1. La Birmanie a déjà été sanctionnée. La Birmanie, ou la junte, a averti les manifestants ce matin qu'ils risquaient de mourir, ce qui n'a pas dissuadé à nouveau des milliers de personnes de descendre dans les rues pour dénoncer la dictature. Tous les Boeing 777 équipés du moteur du même type que celui qui a pris feu au-dessus du Colorado sont cloués au sol. 128 appareils dans le monde, mais pas ceux d'Air France qui, nous a-t-on dit, n'ont pas les mêmes réacteurs. Les sports au sein du 15 de France de rugby, la liste des forfaits s'allonge. 5 nouveaux cas positifs au Covid viennent d'être révélés, Corinne Boulou, dont le capitaine.
Oui, les tests désormais réalisés tous les jours au sein du 15 de France n'apportent pas de nouvelles rassurantes. À chaque jour, son lot de joueurs contaminés. Nouveau coup dur ce matin, la Fédération française de rugby annonce en effet que les résultats des tests PCR réalisés hier sont revenus positifs pour 5 nouveaux joueurs. Parmi eux, le capitaine du 15 de France, Charles Olivon, le pilier gauche, Cyril Baye, et l'arrière Brice Dulin. 2 membres de l'encadrement sont considérés comme cas suspicieux. À ce jour, 14 personnes au sein de l'équipe et de l'encadrement sont aujourd'hui touchées par le virus, dont le sélectionneur Fabien Galthié, testé positif 2 jours après la victoire en Irlande. Ce sont 10 joueurs qui sont désormais placés à l'isolement. 8 d'entre eux étaient même titulaires face à l'Italie et à l'Irlande. Alors bien évidemment, la question d'un éventuel report du match face à l'Écosse dimanche prochain au Stade de France va se poser. Le comité destination va devoir trancher. En attendant, 5 joueurs ont été encore appelés en sélection pour remplacer les joueurs indisponibles et la fédération précise qu'un retour à l'entraînement collectif est prévu mercredi sous réserve, bien entendu, des résultats des tests quotidiens.
Oui, on a un peu de réserve ou plus beaucoup ?
Heureusement, en France, on a de bons joueurs de rugby et donc encore un peu de réserve.
Merci beaucoup Corinne Boulou. Le temps, Anissa Haddadi, de fortes pluies dans le sud.
Oui, on a du gros temps hein, dans le sud, effectivement, Patrick. C'est un épisode de pluie cévenole qui touche le Languedoc-Roussillon, avec toujours cet après-midi, comme ce matin, de fortes pluies. On attend jusqu'à 150 mm par endroit. Sur les Pyrénées, il neige à partir de 1600 mètres d'altitude. Et puis sur tout le littoral méditerranéen, là aussi, le temps est très agité. En plus de la pluie, nous avons du vent très fort qui souffle jusqu'à 110 km/h en Provence, sur la Côte d'Azur également, 90 km/h sur le sud du Massif central. Bref, vous l'avez compris, c'est très agité dans le sud. Ailleurs, c'est une journée contrastée entre nuages et quelques petites éclaircies avant le retour du très beau temps pour demain. Les températures, 11 à Cherbourg, 12 à Rennes et La Rochelle, 14 à Lille, Strasbourg et Paris, 15 degrés à Belfort et Saint-Etienne, 16 à Nancy, 17 à Marseille et la maximale de 20 degrés est prévue pour Ajaccio.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.